premier invité des matins du samedi, le plus célèbre photographe de son pays, l'Inde, et l'un des plus grands photographes du monde. Sa première photo, il l'a faite en 1956 et elle a été publiée dans le Times. Henri Cartier-Bresson l'a fait entrer à l'agence Magnum, à laquelle il est toujours associé. Ses images ont fait le tour du monde, soit dans des organes de presse prestigieux, soit dans des livres qu'il a consacrés à des villes, des figures, des événements, toujours en Inde. Car là où certains aiment parcourir le monde, lui a choisi de travailler sur ce territoire grand comme un continent et de l'observer au plus profond avec son appareil photo, faisant du pays la matière première de ses images. Le 30 octobre dernier, il a reçu le premier prix de l'Académie des Beaux-Arts William Klein à l'occasion de Paris Photo ce week-end à Paris. Nous avons choisi de le rencontrer. Raghuraï est notre invité. Je suis très honorée de rencontrer ce grand monsieur de la photographie. Bonjour monsieur.
Thank you very much for inviting me.
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est super d'être ici.
Et c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci également à votre interprète de ce matin, Harold Manning. Ce prix de l'Académie des Beaux-Arts, William Klein, il représente quelque chose de particulier pour vous, Raghuraï, qui avait quand même déjà été récompensé de nombreux prix?
Well, this is the highest.
C'est le prix le plus grand que je pouvais imaginer.
You see, when my pictures were published,
mes photos ont été publiées dans le Times, comme vous l'avez dit,
and then I was doing my first exhibition,
et que je faisais ma première exposition.
So I asked the picture editor,
j'ai demandé,
of the Times,
effectivement, au rédacteur en chef du Times, s'il pouvait écrire une petite introduction pour moi. C'était en 1965, 4 ans plus tard.
So he wrote,
il a écrit
that Raghuraï has a unique way of
seeing things. Raghuraï a une façon de voir le monde unique.
And I appraise his work with the same
respect. J'aime et j'apprécie son travail avec le même respect que Henri Cartier-Bresson.
And why shouldn't he become the greatest of them?
Et peut-être il va devenir plus grand qu'eux.
So I was not flattered.
Je n'étais pas flatté, je n'étais pas heureux de ce texte. Je pensais qu'il en disait trop. J'étais qu'un gamin en photographie. Et ses compliments, en ces 4 mots, étaient énormes pour moi. Et je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il s'est senti forcé de dire ça?
Et aussi,
quand Bresson m'a introduit à l'agence Magnum en 72,
and I did not respond.
Je n'ai pas répondu à cette invitation.
I said, oh my God,
je me suis dit, oh mon Dieu,
with those big guys,
avec ces grands bonhommes, je ne peux pas du tout être à la hauteur.
You know, and in 77,
et en 77, 5 ans après,
I was leaving my job,
j'étais en train de quitter
and
mon travail
from my office,
et je quittais
so
donc mon bureau et j'ai vu cette lettre de 72
that they invited me to come and join
en vidant mes affaires où ils m'invitaient à venir les rejoindre. Et je me suis dit, à contre-cœur, peut-être que c'était le bon moment.
Jimmy Fox, the man who
et donc, j'ai écrit à Jimmy Fox et je lui ai dit, est-ce que cette offre est toujours valable?
Yes.
Il m'a dit oui.
So it took me another 5 years.
Et il m'a fallu donc 5 ans.
Now, for two reasons.
Pour deux raisons.
I am a very shy person.
Parce que je suis quelqu'un de très timide.
And also, I don't want to be in competition.
Et aussi, je n'ai pas envie d'être en compétition avec les autres.
For me,
pour moi, l'Inde, mon pays, c'est mon monde. Et c'est alors que j'ai commencé à travailler pour Magnum.
You see, I have been photographing.
Vous voyez, je photographie depuis presque 55 ans.
And my intensity,
et mon intensité, ma passion, a grandi avec ce temps. Et je crois que j'ai produit des photos et un travail vraiment assez intense. Et puisque je ne sors pas beaucoup de chez moi, je ne rencontre pas beaucoup de gens, je ne rencontre pas mes publics, les gens qui s'occupent de mes livres, tout ça, alors... Je me demandais auparavant, quand, si jamais je faisais des photos dans le noir, peut-être que je ne montrerais pas, pourrais pas partager mes photos avec les gens. Mais j'ai le sentiment, et j'ai l'impression de faire du bon travail. Et tout ça, mis ensemble, grâce à la nouvelle technologie numérique, et avec tous les médias sociaux, tous ces réseaux, les gens peuvent voir vos photos maintenant facilement.
This award,
Et donc ce prix
from the Academy des Beaux-Arts,
de l'Académie des Beaux-Arts
to me as a bolt from the blue.
Et pour moi quelque chose comme un coup qui vient comme complètement de l'imprévu.
Coming from India, I'll call it
et comme je suis indien,
divine blessing.
Je dis que c'est une surprise et un cadeau divin.
Vous dites, Raghura, grâce à la technologie, on peut désormais voir mes photos à travers le monde, ce qui est une réalité. Mais il y a un autre aspect de cette réalité concernant l'évolution technologique de la photographie et l'évolution même numérique de la photographie, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en fait de la photographie. Est-ce que ça vous réjouit ou est-ce que ça vous désole, le fait que finalement l'image sature le monde ? Est-ce que vous pensez que tout n'est pas digne d'être photographié, vous ?
Vous voyez, c'est étrange. J'ai l'impression que c'était en 2003 ou
2004.
J'étais à Paris.
J'étais assis avec Bruno Barbie
et d'autres amis photographes. On était en terrasse, le soir.
And having our drinks.
Et on buvait un coup. Et un des photographes, il avait un appareil numérique qui avait été très différent. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu connais pas, mais c'est un appareil numérique. Et tu peux prendre les photos là, maintenant, de nuit. J'ai dit, mais montre-moi. J'ai pris l'appareil, j'ai pris quelques photos dans la rue, la nuit. Et les photos étaient là, oui.
Je me suis dit,
mon Dieu, c'est dingue.
Et
j'ai acheté mon premier appareil photo numérique. Et je vous promets, c'est le jour où j'ai reçu une commande de magazine pour faire un reportage sur Bombay. C'était pour Géo. Et je suis parti avec mes deux appareils photo. Donc, j'ai commencé avec mon appareil numérique. Mais dès ce moment-là, j'étais incapable de revenir à l'argentique. Parce que cette technologie numérique, elle est tellement magique. Cette technologie aussi, elle est rapide. Elle me donne une liberté énorme pour capturer des images.
Qu'est-ce que c'est l'appareil photo que vous avez posé devant vous, à côté de vous? Vous ne vous en séparez jamais. Raghura, c'est un icône.
Nikon.
Yeah, I have always used Nikon cameras.
Oui, j'ai toujours utilisé des appareils Nikon.
You know, digital cameras are so superior.
Et pour moi, ces appareils numériques sont tellement supérieurs. C'est vraiment d'une qualité énorme.
You have the controls.
On peut contrôler l'image.
You can capture anything at any given time.
Et à n'importe quel moment, vous pouvez faire une très bonne photo techniquement. Et c'est ça qui m'importe.
I don't believe in using various different brands of cameras.
Et les autres marques, tout ça, j'y crois pas tellement. J'ai pas envie de perdre mon temps à faire des expérimentations avec d'autres appareils ou d'autres marques.
Vous ne vous séparez donc jamais de votre appareil photo ou de vos appareils photo, Raghuraï. On a l'impression, malgré tout, que tout vous intéresse. Et je disais, paradoxalement, vous estimez que tout n'est pas digne d'être photographié. Alors, comment faites-vous? Est-ce que vous photographiez tout? Là, dans le studio, quand vous êtes entré, vous avez commencé de photographier. Est-ce que vous photographiez tout et vous choisissez après, ce que permet d'ailleurs le numérique? Ou bien, malgré tout, vous vous laissez guider, votre œil est attiré par des choses particulières, par le sentiment, par cette intensité dont vous parliez tout à l'heure?
Yes, yes. No, you see, wherever I go, I carry a camera.
Voyez-vous, partout où je vais, effectivement, je prends mon appareil photo.
Because they say God.
Parce qu'on dit.
And a great moment can meet you anytime.
Dieu et un grand moment peuvent se trouver sur votre chemin à n'importe quel moment.
Now, you see, some of my friends who know me very closely.
Certains de mes amis qui me connaissent bien.
I'm not carrying a camera. They say, oh, you look naked.
Quand je n'ai pas mon appareil photo, ils me disent, oh là là, t'as l'air tout nu.
You see, everything doesn't make a picture.
Vous savez, tout ne fait pas une
but
photo.
To carry a camera.
Mais d'avoir un appareil avec vous.
And the ability to observe and connect.
La possibilité d'observer et d'être en connexion avec tout ce qui vous entoure.
More than anything else,
plus que tout,
it keeps you alive,
ça vous
alert,
met en vie.
There.
Vous êtes sur le coup, vous êtes présent.
Alert,
d'être présent au monde,
être
en connexion avec, recevoir des émotions, répondre à ces émotions, cela me garde ma jeunesse et ma vie.
Raghuraï, il y a quelques grands moments dans l'histoire de votre parcours photographique que vous avez capté, que vous avez immortalisé grâce à votre appareil photo. On peut en citer quelques-uns, on peut citer la guerre d'indépendance du Bangladesh en 1971 qui a provoqué la mort de 2 millions de personnes et qui a fait 10 millions de réfugiés qui sont arrivés en Inde. On peut citer la catastrophe de Bhopal en 1984 qui a fait, selon les chiffres des selon les derniers chiffres des associations, près de 22 000 morts. Et puis il y a le Cachemire, que vous continuez de photographier, où vous allez régulièrement. Est-ce que vous diriez que la photographie est aussi pour vous une forme de combat, doit être un document, ou c'est une forme d'engagement personnel de votre part ?
C'est un peu les deux. C'est personnel, effectivement. L'aspect personnel doit être présent. J'ai passé 34 longues années à travailler pour des journaux, des magazines, en tant que photojournaliste. Et quelque part, ma vie, dès le départ, a été vraiment liée avec des événements dans mon pays et à travers le monde. Et cet intérêt pour le monde m'a permis d'entrer vraiment dans ces événements. Et c'est très important pour moi de rester un photographe responsable et d'être un homme sensible derrière ma caméra. Comme on dit, le but de la photographie, c'est de capturer notre époque. Parce que c'est ça, finalement, qui va faire le document de l'histoire demain. On regarde les photos d'Henri Cartier-Bresson, en 1947, au moment de l'indépendance de l'Inde, il est venu en Inde. Et il a photographié des moments magnifiques et très importants de notre histoire. Et j'adore toujours ces photos. Je me dis, ce type, mais il a fait des trucs magiques. Et donc, le but de la photographie, pour moi, c'est de la photographie documentaire, c'est de capturer notre époque, notre temps. Et c'est un processus qui m'est vraiment cher.
Puisque vous citez Henri Cartier-Bresson, il disait, Henri Cartier-Bresson, je le cite presque de mémoire, hein, pas précisément, il disait qu'il fallait avoir l'œil froid et le cœur chaud. L'œil ouvert regarde le monde, disait-il, l'œil fermé regarde à l'intérieur de soi. Comment saisissez-vous, Raghuraï, l'intensité de vos photographies? Quelle est la bonne distance? L'œil est toujours froid, le cœur est toujours chaud?
Ça doit vous venir naturellement, et ça vient avec le temps.
Because if your eyes become emotionally,
si votre œil est pétri d'émotions,
then you begin to lose,
alors vous commencez
the clarity of things.
Perdre la clarté des choses. Et je pense que Cartier-Bresson, ce qu'il disait, effectivement, l'œil froid, mais le cœur chaud. Ça veut dire vraiment aussi partager les choses avec les gens. Et cet homme, il était complètement magique. Il nous a donné tellement de choses. Voyez-vous, grâce à Dieu, on a eu quelqu'un comme Cartier-Bresson et d'autres photographes qui ont vraiment été des grands exemples et nous ont montré la voie dans des directions d'ailleurs différentes. Et c'est pour ça que je suis content d'être là, en France, dans sa ville, qu'il a tellement bien photographié. Et c'est un peu comme mon propre pays, donc c'est merveilleux, cet axe entre l'Inde et la France.
Il y a un autre photographe que vous connaissez bien qui s'appelle Sebastião Salgado et qui parle de vous, Raghuraï, en disant qu'en plus de tout le reste, vous êtes un réel écologiste. Et on sait à quel point ça compte pour Sebastião Salgado. Parce que vous avez planté des arbres sur un lopin de terre dans les environs de New Delhi. C'est vrai ça, vous avez aussi fait tout un livre sur les arbres.
Yes. You know, I have had great love for nature from the very beginning.
Vous savez, c'est depuis l'enfance vraiment que j'ai un grand amour pour la nature. Et quand je suis retourné à Delhi, effectivement, j'ai pris cette ferme, j'ai acheté cette ferme avec 6 acres de toile que je peins, en fait, avec des plantes différentes, avec des arbres, des plantes qui viennent du monde entier. Et ma femme me dit vraiment, tu ne te reposes jamais. Tu plantes un petit arbre et tu veux qu'il grandisse du jour au lendemain. Effectivement, je plante des petits arbres et j'ai envie que le lendemain, il soit déjà immense. C'est effectivement mon impatience. J'ai envie de grandir avec eux.
Raghuraj, j'ai à côté de moi, vous avez votre appareil photo, moi j'ai des livres de Raghuraj à côté de moi. J'ai notamment un livre sur les Indiens, des portraits que vous avez fait de votre peuple, puisque vous avez aussi réalisé des très grandes figures artistiques, politiques. Par exemple, vous avez suivi Mère Teresa pendant des dizaines d'années, puisque vous lui avez consacré pas moins de 3 livres. Vous l'avez photographié pour la première fois en 1970. Vous l'avez suivi jusqu'à sa mort en 1997. On trouve également le Dalai Lama que vous avez suivi et que vous continuez de suivre dès que l'occasion vous en est donnée. Où on voit dans ce livre sur les portraits Indira Gandhi, qui a été la première ministre en Inde en 1966. Je vais ouvrir ce livre à une page justement consacrée. Il y a 3 photos d'Indira Gandhi. Vous les montrez pour vous demander de nous donner un rapide art du portrait. Parce que les photos d'Indira Gandhi, qui sont en tout cas dans ce livre-là, sont des photos particulières. Elles sont souvent, il y en a 2 sur 3 en tout cas, où on ne voit pas son visage. Elle est dans l'ombre, où elle est voilée, et on voit juste apparaître son profil. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'art du portrait, ça, Raghuraj?
You see, Indira Gandhi,
vous savez,
took over at a time when
est arrivé au pouvoir à une période de grande transition pour l'Inde, des transitions sociales, politiques, économiques. Et puis c'était la fille de Nehru qui avait été le premier Premier ministre. Et donc elle avait appris beaucoup de choses quand son père était au pouvoir. Et elle n'avait pas envie de se révéler tout le temps, de se montrer tout le temps. Elle voulait garder un regard très intense sur la politique et les gens qui l'entouraient, essayaient de soutenir le fait que justement ces portraits, qu'on voit un petit peu son profil seulement, c'est une femme indienne, donc elle a la tête couverte, c'est notre culture, et qui parfois peut cacher beaucoup de choses. Elle ne voulait pas tout révéler, elle ne voulait pas tout montrer. Et avec d'autres hommes politiques au Congrès, on peut voir qu'elle est physiquement là, mais quelque part, son esprit est ailleurs. Et la dernière photo de Madame Gandhi devant les montagnes himalayennes, une fois qu'elle avait dit qu'elle aimait les montagnes himalayennes, et je lui dis, ce serait vraiment bien de vous photographier là-bas. Et elle a eu la gentillesse de me donner assez de temps pour que nous allions faire ces photos-là dans l'Himalaya. Et donc, il s'agit aussi d'un portrait de son itinéraire politique en tant que femme aussi, et de son lien avec le pays.
Est-ce que ça veut dire que quand vous photographiez quelqu'un, quel qu'il soit une figure publique ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, un anonyme, vous cherchez toujours à aller au plus profond de la personne, chercher qui il est, chercher l'être humain, pas nécessairement la beauté, mais peut-être une vérité de cet être humain-là?
Yeah, physical reality is one thing.
Oui, le corps de la personne est une chose, sa réalité physique. Mais ses émotions et sa réalité et sa vérité intérieure est quelque chose de parfois complètement différent. Et donc, quelqu'un qui est créatif regarde le monde par les yeux et il est guidé par son instinct. Son instinct, c'est quelque chose qui vous donne une intuition.
This is the one.
Qui vous dit, tiens, celui-là, ça c'est le bon. Et là, c'est cet instinct qui finalement capture et arrive à captiver la personne dans son environnement, dans son intériorité, dans son intégralité, pour aller au-delà de l'apparence physique des choses. Et ça peut durer pour toujours.
Restez avec nous, Raghura. Il est 7h30 sur France Culture et on vous retrouve d'ici 2 minutes. On retrouve notre invité, un très grand photographe qu'on est ravi d'accueillir dans les matins du samedi. Raghura est avec nous et nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous ce matin aux Aurores. Raghura, on vous quittait sur cette idée de transmission. Il se trouve que vous avez une fille qui s'appelle Avani et qui était aussi photographe. Elle a même fait un film sur vous qui s'intitule « L'Inde dans l'œil d'un photographe ». C'est un film qu'on peut voir en VOD sur arte.fr dans lequel elle dit « Mon père est un peintre et son pays est sa toile ». Ce qui ne veut pas dire, Raghura, que vous avez toujours photographié en couleur, même s'il y a des formidables images de vous en couleur. Vous avez beaucoup photographié en noir et blanc. On a l'impression, mais peut-être que vous allez me contredire, que quand vous photographiez en noir et blanc, votre photographie est plus proche du documentaire. Et quand vous photographiez en couleur, vous faites des images extrêmement picturales, mais presque plus proche, effectivement, d'une dimension artistique. Est-ce que je me trompe ?
Contrairement à un peintre,
un artiste peut peindre le ciel green et blender avec d'autres couleurs de sa choix.
Un peintre peut utiliser les couleurs qu'il veut, il peut peindre le ciel en vert. Le photographe ne peut pas changer les couleurs. Il capture une sorte de réalité. Et les couleurs, quelque part, fonctionnent ensemble et ne peuvent pas être organisées par lui. Alors, la façon de maîtriser la couleur, c'est de passer au noir et blanc pour réduire le bruit que provoque la couleur. Je ne décide pas avant de faire du noir et blanc ou de la culture. C'est une histoire de situation, de justesse, pour que plus tard je décide si jamais elle reste en couleur ou si on passe au noir et blanc.
De quelle couleur est la ville où vous habitez, Raghura? Vous vivez à New Delhi. On entend régulièrement parler de New Delhi, victime de la pollution. Elle passe souvent dans des couleurs jaune-rouge. Vous diriez de quelle couleur elle est pour vous?
Il y a tellement de pollution. Et les couleurs, effectivement, passent un peu, oui.
But nevertheless, you know, even then,
cependant,
Delhi is not a very typical representative of any specific color.
Ne représente pas, n'est pas bien représenté par une couleur ou par une autre. Quand on vient du reste du pays, quand on arrive à Delhi, on voit plein de couleurs. Plein de gens, mélange de religions, d'ethnie, qui est caractériste d'une grande ville. Mais c'est une ville qui a beaucoup de caractère, d'émotions, et d'une force aussi, malgré la pollution.
Vous auriez bien aimé être musicien, vous les avez photographiés, les figures de grands musiciens, vous aimez particulièrement la musique, et donc vous êtes venu avec une chanson. Vous nous diriez juste un tout petit mot de cette chanson?
Dans mon enfance, quand on me demandait ce que je voulais devenir, je disais musicien. Et mon père n'était pas bien content de ça, parce qu'il voulait que je sois ingénieur. Donc je suis devenu ingénieur, mais mon amour pour la musique n'a jamais disparu. La musique, c'est une nourriture pour mon esprit. Et la musique me met dans le rythme de la vie. Le rythme de la musique aligne tous les éléments de la vie pour que ça devienne une jolie photo. Et ce petit bout de musique que vous allez entendre, c'est Omar Gandhar, qui est un chanteur classique indien qui n'avait qu'un seul poumon et qui chantait avec un seul poumon. Mais ses chansons sont une exploration. Et elles sont tellement extraordinaires. Et cette musique, elle est vraiment pour élever l'esprit. Et si vous l'écoutez attentivement, elle vous emmène l'esprit. Et votre corps commence à danser dans le rythme. Et c'est un rythme intérieur. Pas ce que les mouvements physiques que l'on a avec les rythmes occidentaux. C'est autre chose. Manila Ram, Raja,
Un très grand merci, Raghuraï, et toutes nos félicitations pour ce prix.
C'est fini ?
Et oui, c'est fini déjà. Bah oui, comme sur la musique. De toute façon, vous dansez, vous dites souvent qu'il vous prend l'envie de danser autour de vos sujets.
C'était super bien.
On aurait pu continuer, bien sûr, très longtemps. En tous les cas, nos auditrices et nos auditeurs pourront voir vos photos non seulement dans ces livres, hein, que vous avez quelques 50 livres que vous avez édités à partir de vos photographies. Et puis surtout, une exposition commencera bientôt à l'Académie des Beaux-Arts à Paris, juste après Paris Photo qui se termine bientôt. Mais du 20 novembre au 5 janvier à l'Académie des Beaux-Arts de Paris, les spectateurs, les futurs visiteurs de cette exposition pourront voir une partie non négligeable de votre travail, Raghuraï. Merci beaucoup.
Thank you so much. Merci. Wonderful to be here. Thank you.
Super d'être là. Merci.
Et j'oubliais presque de dire que l'Inde est aussi à l'honneur au musée Guimet à Paris, qui propose depuis mercredi et jusqu'au 17 février 2020 une exposition intitulée « L'Inde au miroir des photographes ». Paris Photo, c'est jusqu'à demain au Grand Palais. Aujourd'hui, parmi les nombreux rendez-vous, par exemple, l'historien Michel Poivert participera à une table ronde à midi et demi suivie d'une signature à 14h de son livre sur les 50 ans de la photographie contemporaine de 1970 à nos jours, chez Textuel, là même où le photographe Harry Gruyaert vient lui de publier son nouveau livre Last Call, dont on peut voir des clichés aussi à Paris Photo. Et puis dans les aéroports, Last Call, c'est un nom d'aéroport, les aéroports de Roissy et d'Orly en l'occurrence.